Bienvenue chez les protestants de l'église réformée du Bouclier à Strasbourg. Voici la méditation de ce dimanche.
Toujours dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 26 à 31. Arrivé à Jérusalem, Saül tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et débattait aussi avec les gens de langue grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères en eurent connaissance, ils le firent descendre à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, était donc en paix. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit-Saint. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Voilà ces trois textes que je vous propose aujourd'hui et qui, a priori, n'ont pas tellement de lien. D'abord, deux textes d'Ésaïe et puis ces textes des apôtres. Saül est devenu Paul. La conversion l'a transformé, à tel point que son identité même s'en trouve changée. Le spécialiste de la loi, employé à juguler une contagion chrétienne dont on ignore encore le nom à l'époque, on parle pour les chrétiens des adeptes de la voie, il bascule sur le chemin de Damas et, à contre-emploi, va devenir une des chevilles ouvrières de la diffusion d'un message hors des frontières ethniques. Paul a été le missionnaire le plus important du christianisme primitif. Mais Paul, qui s'est toujours considéré comme pharisien, est resté juif. Et on s'interroge depuis longtemps sur ce qui a poussé ce pharisien convaincu à s'élancer ainsi vers les païens. Une des hypothèses retenues serait qu'il était déjà missionnaire avant sa conversion. Paul, dans sa période pré-chrétienne, se serait alors, selon cette hypothèse, adonné au recrutement de prosélytes, c'est-à-dire de ces païens attirés par la foi juive dans les communautés de la diaspora du bassin méditerranéen. Ainsi, Paul, qui était missionnaire d'une synagogue qui prêche la loi, serait devenu un missionnaire d'une église qui prêche la foi, et une partie de la recherche historique est aujourd'hui prête à admettre qu'il doit y avoir eu des missionnaires juifs pour qu'il y ait eu par la suite des missionnaires chrétiens, qui n'ont pas pu apparaître comme ça du jour au lendemain. Mais cette thèse, selon laquelle Paul n'aurait finalement que changé le contenu de sa prédication, sans toucher à la forme, ne fait pas l'unanimité. En effet, sans m'attarder sur l'opposition entre synagogue de la loi et église de la foi, bien trop caricaturale, si jusque dans les années 1990, c'était il n'y a pas si longtemps, on s'accordait à faire du judaïsme la première religion universelle à avoir été missionnaire, on a même parlé de propagande. En quelques années, des études sont parues les unes après les autres pour établir que l'on ne pouvait pas comparer l'activité du judaïsme de l'époque à celle du pagano-christianisme de Paul. Il y a donc bien un avant et un après Paul. Alors comment est née cette idée de la mission ? Cette idée que l'Église, pour se développer, devait aller à la rencontre de ceux qui, a priori, n'avaient rien en commun avec les premiers chrétiens. Comment est née cette idée, puisque le judaïsme lui-même n'en était pas le terreau ? Car certes, il existait à l'époque de Paul ce qu'on appellerait aujourd'hui des sympathisants. Des sympathisants de la religion juive, une religion qui, comme aujourd'hui, jouissait d'un certain pouvoir d'attraction. Son antiquité, la figure tutélaire de Moïse, l'importance donnée à l'éthique, la cohésion communautaire étaient autant d'éléments susceptibles de séduire des païens qui, à cette époque, étaient déçus par le polythéisme de leur culture. Certains d'entre vous qui ont lu Le Royaume connaissent l'anecdote rapportée par l'auteur Emmanuel Carrère quand Cicéron, dans une formule célèbre, écrit que deux augures, les prêtres romains, ne peuvent pas se regarder sans rire. Ils n'expriment pas une hardiesse de libre penseur, mais l'opinion moyenne, qui devait être encore plus sceptique que la nôtre, car personne, aujourd'hui, n'écrirait la même chose à propos de deux pasteurs ou de deux rabbins. Sans forcément croire à ce qu'ils disent, nous croyons qu'eux, au moins, y croient. Faites-nous, au moins, cet honneur. Les synagogues étaient nombreuses. Et parfois appelées écoles, elles avaient bonne réputation. Elles prônaient l'étude qui était valorisée et parfois assimilée à la philosophie. Et enfin, la Torah, dans sa version grecque, était enfin accessible et avait convaincu nombre de païens de mettre leur foi dans le Dieu unique d'Israël. On sait également par quel processus des païens se sont rapprochés des milieux judaïsants, se faisant appeler des craignants Dieu. Ils observaient le sabbat et allaient, dans certains cas, attester jusqu'à demander la circoncision pour eux et pour leurs enfants, et devenaient alors des prosélytes. Mais malgré tous ces éléments, il faut distinguer l'attraction de la mission. Car si les Juifs vivaient dans l'attente d'une conversion des païens, cette conversion devait être une conséquence eschatologique. C'est convaincu qu'Israël est le peuple souverain et uniquement à cette condition que devait advenir la conversion des nations. Nul besoin donc de s'adonner à un zèle missionnaire. Cette espérance d'une conversion, vous la connaissez, car elle est tirée en partie du livre d'Ésaïe, selon lequel le serviteur de Dieu, le Messie, doit être la lumière des nations. Le premier chant du serviteur, dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure, mais aussi le second chant au chapitre 49 du livre d'Ésaïe, vont dans ce sens. Maintenant, Seigneur, parle. lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux du Seigneur, car mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Même si la tentation est grande de faire de ces textes une justification de la mission de Paul, ils ne peuvent pas suffire. Dans leur logique eschatologique, il aurait fallu pour coller au texte qu'Israël tout entier soit converti avant de s'occuper des nations. Or, tel n'a pas été le cas. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher, ni dans les prophéties de l'Ancien Testament, ni dans les pratiques socio-historiques du judaïsme de l'époque. Il semble aujourd'hui que la thèse la plus crédible soit la thèse christologique. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit le texte, c'est-à-dire au-delà d'Israël. Or, il est attesté de manière unanime dans les évangiles que Jésus lui-même a interprété sa messianité comme étant celle d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que c'est le ressuscité, appelons-le comme ça, c'est le ressuscité qui donne l'ordre d'une mission auprès des nations, comme on peut le lire par exemple à la toute fin de l'évangile de Matthieu, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. » Jésus se vit alors se faisant comme dépositaire de la figure du serviteur annoncé et envoie ses disciples avec un ordre de mission. Seulement la première génération de chrétiens, conformément aux attentes de l'Ancien Testament, va estimer qu'il faut que tout Israël soit converti avant de s'occuper des nations, et Paul ne fait pas exception, du moins au début. Il est prêt à souscrire à cette conception dans un premier temps. Il le prouve quand il écrit aux Romains pour le juif d'abord, puis pour le grec, dans cet ordre. Mais il fait comme par hasard une référence explicite à notre texte d'Ésaïe 49 dans son épître aux Galates, pour justifier sa mission. C'est Paul qui écrit « Mais quand il a plu à Dieu qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs, aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et puis je suis retourné à Damas. » Paul s'inscrit dans une tradition qu'il a reçue et dont il témoigne. Il cite explicitement la prophétie, mais il s'en dégage. Il l'interprète. Il la fait sienne. La thématique de la mission était épineuse, au moins autant qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et beaucoup de questions qu'elle soulève ne sont pas nouvelles. Nous y sommes confrontés aujourd'hui encore. Qui parmi nous est digne de s'y adonner? Qui envoyer pour être convaincant? Mais aussi, comment être sûr que ceux qui vont intégrer le groupe, qu'il s'agisse de jeunes ou de moins jeunes, soient au fait des traditions de ce groupe, de ses usages, de ses valeurs, de son esprit même? C'est déjà le sujet à l'époque du Concile de Jérusalem, qui nous est raconté dans le livre des Actes, un tout petit peu plus loin, que vous lirez cet après-midi. Paul, au cours de ses voyages, a donc fondé plusieurs communautés en milieu grec, et à Jérusalem, la maison mère, on se réjouit. On reçoit d'abord avec enthousiasme le récit de la pénétration du christianisme dans les milieux païens. Mais le problème de l'accueil des non-juifs se pose alors. Au nom de la fidélité à la loi, au nom de l'élection privilégiée d'Israël. Doivent-ils se faire circoncire pour marquer leur appartenance à la communauté chrétienne? Doivent-ils observer les interdits alimentaires de la cacheroute? La formule de compromis fixe finalement aux païens quatre interdits qui constituaient, selon la littérature rabbinique, les quatre exigences minimales imposées aux prosélytes en contact avec les juifs. Rapidement, éviter de consommer les viandes sacrifiées aux idoles, s'abstenir des unions illégitimes, ne pas manger de viande non saignée et éviter de consommer du sang d'animaux. Ces restrictions visent à éviter que les non-juifs soient cause de souillure pour leurs frères et sœurs judéo-chrétiens. Bon an, mal an, on en était arrivé à un compromis acceptable pour les deux groupes. Les non-juifs chrétiens acceptaient les règles énoncées et les juifs chrétiens n'obligeaient pas les non-juifs à se faire circoncire. Les deux groupes pouvaient se retrouver à la même table. Mais de nouvelles questions sont apparues pour le christianisme. Et ces dernières années, elles sont devenues, comment il faut dire, évidentes pour les chrétiens que nous sommes. J'en cite une ou deux, il y en a d'autres. La question d'une parole publique a osé dans un contexte de tension religieuse où la laïcité est de plus en plus comprise, à tort, comme la relégation du discours religieux dans le domaine privé. C'est pour moi aujourd'hui une des questions les plus évidentes qui se posent à notre foi chrétienne. Comment oser une parole publique dans un contexte de pluralité et de laïcité incomprise ? De manière plus directement liée à nos vies, la question de la transmission dans la famille. Comment transmettre sans imposer, sans avoir l'impression de nier ce libre arbitre dont nous sommes si fiers. Et les chrétiens que nous sommes aujourd'hui sont souvent désarmés face à ces questions car elles sont subies, trop souvent individuellement. Et nous avons de ce point de vue beaucoup à apprendre de Paul. Je terminerai par là. Paul incarne le mieux celui qui, dans notre tradition, a réussi le pari d'interpréter sa propre tradition textuelle à la lumière de sa foi en Christ pour répondre aux enjeux de son époque. Il a eu le courage de dire « Le ressuscité m'invite à partager un message au-delà des frontières, au risque du ridicule, et dans son cas au péril de sa vie. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que Dieu, par sa parole, vous donne grâce et paix.